Très bon réveil à l'écoute de RFI. 4h en temps universel, 7h à Jérusalem, 7h30 à Téhéran. L'actualité internationale. Bonjour Fabrice Le Grier.
Bonjour Arthur, bonjour à tous. RFI, les 4h en temps universel. Troisième jour de conflit entre Israël et l'Iran. Et l'escalade se poursuit. Téhéran a mené dans la nuit de nouveaux tirs de missiles sur le centre d'Israël ou encore sur la région ouest de Jérusalem. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. L'armée israélienne qui de son côté a de nouveau visé de nombreux sites iraniens, notamment à Téhéran. Autre grand titre de l'actualité ce dimanche matin aux États-Unis, la grande parade militaire qui vient de se dérouler à Washington et de grandes manifestations à travers tout le pays pour dénoncer la politique de Donald Trump. À retenir également, Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur, un fait rarissime. Cela fait suite à sa condamnation dans l'affaire des écoutes. En Israël, une nouvelle nuit de bombardements iraniens au troisième jour de la confrontation militaire débutée par les attaques massives d'Israël sur des sites militaires et nucléaires iraniens. Au moins 2 salves de missiles ont été tirées sur le territoire israélien cette nuit. On fait le point tout de suite avec vous, Michel Paul. Michel, bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem où vous avez vous-même passé une partie de la nuit dans un abri. Et on le disait, hein, Michel, le bilan est lourd et s'alourdit ce matin.
Oui, c'est la nuit, une nuit particulièrement meurtrière pour les Israéliens. L'Iran avait promis une attaque dévastatrice. Ce bilan du double barrage de missiles balistiques est donc particulièrement lourd. 4 femmes tuées dans le village arabe de Tamra, dans le nord d'Israël, en Galilée, à la suite de la première salve. Elles appartiennent toutes les 4 à la même famille. Quelques heures plus tard, un nouveau tir de missile particulièrement bien nourri a provoqué également 4 morts, dont deux enfants dans le centre du pays et dans la région de Jérusalem, à Bat Yam, une banlieue du sud de Tel Aviv, et dans la ville de Rehovot, des tirs également à Rehovot, où l'institut universitaire Weizmann a été touché de plein fouet. Des laboratoires de recherche sont encore en feu ce matin. Le bilan risque aussi de s'alourdir. À ce stade, il y a 35 disparus et près de 200 blessés, dont certains dans un état critique. Il s'agissait d'une attaque combinée, missiles et drones qui ont envoyé pratiquement l'ensemble de la population israélienne dans les abris à 2 reprises au milieu de la nuit. À cela s'est ajouté un tir de missile en provenance du Yémen. Réaction ce matin d'un responsable israélien sous couvert d'anonymat au Wall Street Journal. Désormais, tous les objectifs sont dans le collimateur d'Israël, y compris Ali Khamenei, le guide suprême.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Merci Michel. Israël qui de son côté a mené de nombreuses nouvelles frappes sur l'Iran, frappes visant un certain nombre de cibles à Téhéran, toujours liées selon Israël au projet d'armes nucléaires du régime iranien. Téhéran où l'agence de presse iranienne Tasnim affirme que le ministère de la Défense a été pris pour cible. L'un des bâtiments aurait été légèrement endommagé. Par ailleurs, la raffinerie de Téhéran est en feu, tout comme les réservoirs de pétrole dans le nord-ouest et les réservoirs d'essence dans le sud de la capitale. On ne connaît pas le bilan humain de ces nouveaux bombardements israéliens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, avait affirmé que cette offensive est dirigée contre le régime iranien et en aucun cas contre le peuple iranien, un peuple fier, a-t-il même dit. Une tentative de lever les Iraniens contre leurs dirigeants pour opérer un changement de régime. Pas sûr que cette opération de charme fonctionne, nous dit Mehdi Zakarian. Il est professeur à l'université de Téhéran, joint par Sébastien Farsi.
Le premier ministre israélien, il a regarder la situation intérieure de l'Iran. Ce qui s'est passé 2 ans avant dans les manifestations pro-Mahsa, Mahsa Amini, ou le mouvement de la femme, liberté et vie. Donc il a voulu profiter de la situation intérieure de l'Iran. Seulement de ma part, moi, comme un Iranien, c'est moi qui décide comment agiter devant mon gouvernement. Ce n'est pas le premier ministre de l'autre gouvernement ou de l'autre pays. 46 ans de gouvernement de régime islamique, je vois ce qui se passe comme les crises économiques, les problèmes politiques qui existent en Iran. Mais maintenant, ce sont les peuples qui doivent décider.
Et parmi les réactions, la Chine soutient l'Iran, je cite, dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, dans la défense de ses droits et intérêts légitimes et celle de la sécurité de son peuple. Et notez qu'à 7h15, un temps universel, l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin Nejad, sera l'invité exceptionnel de Julien Coquel-Rohem sur RFI. Dans la bande de Gaza, la défense civile annonce la mort de 41 personnes hier. 23 d'entre elles auraient été tuées par l'armée israélienne alors qu'elles attendaient des distributions d'aide alimentaire. Plusieurs bombes auraient été larguées par des drones près d'un point de distribution dans les environs du corridor de Netzarim. Face à l'enlisement de la situation humanitaire à Gaza et la souffrance des civils gazaouis, la riposte citoyenne s'amplifie. En France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier à Paris et dans de nombreuses villes. Rassemblement destiné à soutenir la Palestine et demander la paix dans la bande de Gaza, à l'appel de plusieurs syndicats, partis de gauche et collectifs. Reportage Laurence Théo.
Partout, brandis haut dans le ciel, le triangle rouge et les bandes noires, blanches et vertes du drapeau palestinien. Et sur les épaules ou sur la tête, les carreaux noirs et blancs des keffiyeh. Ils tenaient à être là, Jeanne et Hakim commentent l'offensive lancée par Israël contre l'Iran, visant des sites nucléaires.
Moi je pense vraiment que l'attaque sur l'Iran elle est injustifiée et que c'est vraiment une tentative pour détourner le regard du monde de ce qui se passe à Gaza.
Netanyahou essaye d'allumer des contre-feux, mais en tout cas c'est extrêmement maladroit parce que ça ne fait qu'aggraver une situation que tout le monde a sous les yeux depuis très longtemps. Personne n'oublie Gaza.
Le slogan de sa pancarte est économe. Il est écrit « Stop » et tout est dit. Benoît analyse la politique de Benjamin Netanyahou.
C'est une politique comme Donald Trump, par exemple, qui n'arrête pas de changer de sujet pour oublier les sujets du passé. Netanyahou se maintient parce qu'il y a le fait qu'il y ait une guerre perpétuelle lui permet de se maintenir au pouvoir et d'avoir le peuple derrière lui et le peuple israélien. Il y a beaucoup une impopularité mondiale qui est quand même très forte et donc le fait de commencer une nouvelle guerre sans doute lui permet de se maintenir au pouvoir.
Syndicats et collectifs réclament un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien.
Laurence Théo pour RFI. En France toujours, Nicolas Sarkozy se voit retirer la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction française. Cela fait suite à la condamnation de l'ex-président français à 1 an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes. Sanction rarissime, hein. Il devient ainsi le deuxième chef de l'État français privé de cette distinction après le maréchal Pétain. C'était pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi en 1945. Emmanuel Macron se rend lui au Groenland ce dimanche. Le président français veut porter un message de solidarité pour ce territoire autonome du Danemark, en proie à une fonte des glaces accélérée. Territoire aussi très convoité par Donald Trump. Et justement, on part aux États-Unis. Et oui, autre grand titre de l'actualité ce dimanche matin, les États-Unis et même une double actualité avec d'un côté la grande parade dont Donald Trump avait tant rêvé à l'occasion de ses 79 ans. Durant 2 heures, on défilait dans les rues de Washington pas moins de 7000 soldats et 150 véhicules militaires, mais aussi des dizaines d'avions et d'hélicoptères. Donald Trump qui a rendu hommage à ses soldats, je cite, des héros et des légendes. De l'autre côté, de grandes manifestations un peu partout dans le pays à l'occasion du No King's Day pour protester contre la politique du président américain. Manifestation qui a dégénéré dans l'Ouest, à Salt Lake City. Des tirs ont fait un blessé grave, une personne a été interpellée. À Los Angeles, ils étaient au moins 20 000 à défiler. Mobilisation largement pacifique, une semaine après les premières manifestations contre l'intervention de la garde nationale et de la police fédérale de l'immigration dans la ville. La colère ne redescend pas parmi les habitants. Nos envoyés spéciaux Abla Junaidi et Bertrand Eclair étaient sur place pour RFI.
L'éducation, pas la déportation. Parmi les droits fondamentaux désormais menacés par l'hôte de la Maison Blanche, selon les manifestants, il y a celui d'aller à l'école. Sarah est professeure de lycée à Los Angeles. Elle a regardé avec effroi les interventions de la police dans les établissements scolaires.
Je suis horrifiée. Plusieurs de mes étudiants ne sont pas venus aux examens de fin d'année. Ils étaient trop inquiets d'être pris pour cible, kidnappés. Ils avaient aussi peur pour leur famille. Cette politique empêche tout simplement les gens de sortir et de vivre leur vie, et cela inclut d'aller à l'école.
Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, les descentes de la police fédérale de l'immigration se font sur des bases raciales. Cette menace a bouleversé le quotidien des immigrés sans papiers et de leurs enfants, comme l'explique Rose.
J'ai peur pour mes parents, de ce qui pourrait leur arriver. Ma mère est ici depuis 30 ans, elle a toute sa vie ici, ses enfants. C'est terrible de séparer des familles. Depuis que les raids ont commencé à Los Angeles, ma mère ne peut pas sortir. Elle ne peut plus travailler. Ma famille se demande quoi faire, quels endroits éviter. Ça a des conséquences sur nos vies, notre travail et sur nos revenus.
Sous l'œil de la garde nationale déployée désormais dans la ville, la marche a été largement pacifique. Seuls quelques gaz lacrymogènes ont été lancés après la dispersion du cortège. Abla Junaidi, Bertrand Eclair, Los Angeles, RFI.
Au Tchad, 30 jours après l'arrestation et l'incarcération de Succès Masra, les membres de son parti, les transformateurs, se sont rassemblés hier au siège de la formation à N'Djamena. Objectif, réclamer sa libération. Arrêté pour incitation à la haine, l'opposant et ancien premier ministre a été accusé d'avoir incité au conflit dans le sud du pays, notamment via un audio. Accusation formulée suite à un massacre dans le village de Mandakao. Conseiller de Succès Masra, Djegel Bay Digengar dénonce une arrestation politique.
La mobilisation s'est très très bien passée dans le calme, de manière pacifique, et nous avons utilisé des mots, des discours pour réclamer donc sa libération. L'affaire est purement politique, étant donné que le porte-parole du gouvernement lui-même l'a affirmé sur les ondes de Tchad Info, comme quoi l'affaire Masra Succès est une affaire purement politique. Et vu que c'est politique, toute la procédure juridique et judiciaire n'a plus d'avenir. Il faut donc que le président de la République intervienne pour que cette affaire s'arrête là et qu'on puisse libérer Masra Succès. On garde espoir et on croit aussi à un esprit patriotique de tout le monde. Et l'incarcération de notre président est un danger pour notre pays. Notre pays a besoin de dialogue, a besoin d'une consultation pour que toutes les forces vives de la nation, quelle qu'en soit leur opinion, ne puissent pas craindre le pire.
Propos recueillis par Clotilde Hazard pour RFI. En Corée du Sud, la marche des fiertés a rassemblé des dizaines de milliers de personnes hier à Séoul, mais les droits des personnes LGBT+ restent menacés. Le mariage entre personnes de même sexe n'y est pas autorisé. Le droit ne protège pas non plus des discriminations qui visent le genre ou l'orientation sexuelle. C'est le combat de ces militants que notre correspondante en Corée du Sud, Camille Ruiz, a rencontré.
Musique, chars et fanfares, la marche des fiertés défile aux couleurs de l'arc-en-ciel près d'Uljiro, au cœur de Séoul. Mingyu tient un drapeau multicolore dans la main. L'ingénieur de 26 ans est venu avec un ami.
Mes parents, qui sont chrétiens et très pratiquants, sont en ce moment même au rassemblement contre la marche des fiertés.
En Corée du Sud, il n'existe pas de texte qui protège les communautés LGBT. Izzy Yang, militant et drag queen, alerte sur la nécessité d'une loi anti-discrimination, la priorité sur l'agenda des activistes.
Parfois, des manifestants chrétiens s'allongent sous nos chars et nous font du chantage au suicide. Une année, un prêtre a même jeté des excréments humains aux personnes qui défilaient sur les chars de la parade.
D'après Amnesty International, depuis 2007, une dizaine de tentatives pour faire passer un projet de loi ont échoué, car les groupes chrétiens ultra-conservateurs, très influents dans le pays, s'y sont opposés. Et le nouveau gouvernement démocrate n'a pas manifesté l'envie de s'emparer de la question. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Un mot de foot et le coup d'envoi du tout nouveau mondial des clubs à Miami. Le match d'ouverture opposé à l'Inter Miami à Al Rally du Caire. Score final, match nul, 0-0. Récit de la rencontre dans le journal de 7h.
RFI, toute l'actualité.
Fabrice Le Grillier.
Et au sommaire, dans les prochaines minutes sur RFI, le reportage international. Nous partirons en Corée du Sud, dans les usines de semi-conducteurs. Une richesse pour le pays, mais des entreprises qui sont nombreuses à fermer les yeux sur les cancers liés à l'exposition des ouvriers aux produits chimiques. À suivre aussi, ligne de défense. Franck Alexandre reviendra sur l'opération militaire israélienne contre le programme nucléaire iranien. Opération qui, vous le savez, se poursuit. Elle était prévue de longue date. Le secret avait été bien gardé. Juste après ligne de défense, c'est dans ta nature. Et bonne nouvelle pour les baigneurs en Méditerranée, les cartes de baignade indiquent certes la température de l'eau, mais aussi désormais la présence de méduses. Florent Guignard vous dira tout. Nous retrouverons ensuite Corinne Manjo pour vivre ailleurs et des conseils pour bien réussir son expatriation. Pas toujours facile de s'adapter à un nouvel environnement et une culture différente de la nôtre. Et il y a d'autres difficultés auxquelles on ne pense pas toujours. Elles sont notamment liées au domaine d'activité à l'étranger. Le dossier de Corinne Manjo. Enfin, comme chaque dimanche matin, un extrait de l'émission L'Atelier des médias que vous retrouverez à 11h10, temps universel sur RFI. Aujourd'hui, Steven Jambeau revient avec ses invités sur la charte de Marseille sur l'information et les migrations. 11 principes qui ont pour ambition de transformer en profondeur la manière dont les médias abordent les questions migratoires. En Corée du Sud, les semi-conducteurs font la richesse du pays, mais aussi la souffrance de nombreux travailleurs exposés à des produits chimiques. Les ouvriers des usines de ces semi-conducteurs dénoncent un manque de protection qui provoque de nombreux cancers, un problème sur lequel de nombreuses entreprises ferment les yeux. À Séoul, pour RFI, c'est Lio Fioretti.
Après 20 ans de carrière passée à Samsung, Jong Yang-suk porte un constat amer sur son travail qui l'a poussé à démissionner en 2015.
J'étais fière de travailler pour Samsung, mais cela a failli me tuer. Quand je suis arrivée dans l'entreprise après le lycée, je n'avais pas eu de formation sur les dangers de ce métier. On ne savait pas les risques, on allait dans l'inconnu.
Sur les chaînes de production des semi-conducteurs, elle et ses collègues ont été exposés pendant des années à des produits chimiques dangereux, entraînant notamment des cancers, des maladies dont souffrent encore Jong Yong-suk et ses anciens collègues.
J'ai fait deux fausses couches, eu des problèmes d'infertilité et deux tumeurs, l'une à l'utérus et l'autre à la tête. Je suis encore aujourd'hui sous traitement. Autour de moi aussi, les gens tombaient malades. Mes deux supérieurs, l'un a eu un cancer de la peau, l'autre un cancer du poumon. Ils en sont morts. J'ai aussi vu une collègue accoucher d'un enfant mort-né. Une chef d'équipe est décédée très vite, sans que l'on sache de quelle maladie il s'agissait. Avec le recul, on pense que c'était peut-être une leucémie. À l'époque, on ne connaissait pas cette maladie. Elle n'avait que 24 ou 25 ans, ça m'a choqué.
Plusieurs centaines de produits chimiques différents sont utilisés dans les usines de semi-conducteurs de n'importe quelle entreprise du secteur. Seulement en Corée du Sud, la législation autorise les sociétés à garder secrète la liste exacte des composants utilisés. Une mesure pour se protéger de la concurrence, mais qui ne permet donc pas de demander des mesures de protection adéquates. Lee Jong-ran de l'association Sharps, qui regroupe d'anciens employés du secteur, témoigne de la difficulté à mieux protéger les ouvriers.
Samsung, par exemple, après avoir été condamné en justice en 2018, s'est excusé pour le manque de protection et a promis des améliorations. Mais dans le même temps, l'entreprise a décidé de sous-traiter une grande partie de sa production à des sociétés externes qui sont moins regardantes et qui ne peuvent pas tenir Samsung responsable. Donc le problème s'est déplacé.
Aujourd'hui encore, les travailleurs des usines de semi-conducteurs ont 2 à 3 fois plus de chances de développer un cancer à cause des produits chimiques. Les syndicats et la communauté scientifique appellent à lever le secret industriel autour de ces composants de fabrication. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
Rising Lion, lion debout en français. Israël a donc engagé une opération militaire contre le programme nucléaire iranien. Opération qui se poursuit et qui est digne de la bataille d'Angleterre d'une ampleur jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour commencer à frapper l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël a engagé plus de 200 avions et le secret avait été bien gardé. Franck Alexandre, ligne de défense.
Le succès d'une telle opération repose évidemment sur le secret. L'armée de l'air israélienne a donc mené ses activités habituelles jusqu'au bout. Rien ne laissait présager que 200 chasseurs, soit les 2/3 de la flotte israélienne ou presque, allaient fondre sur l'Iran. Au total, dès la première nuit, 5 vagues de bombardements ont été menées et le site nucléaire historique de Natanz a été visé. Une première, souligne Eli Tenenbaum, directeur de recherche de l'IFRI à Paris.
On a très clairement franchi un cap, à la fois de par l'ampleur de l'opération et puis la nature des cibles, puisque le programme nucléaire spécifiquement n'avait jamais été visé. On en a beaucoup parlé, mais au moment des échanges de salves qu'on a pu avoir au mois d'avril et au mois de septembre dernier, Israël s'était retenu, on va dire, de frapper d'une part les infrastructures énergétiques et d'autre part les infrastructures liées au programme nucléaire, vraisemblablement à la demande des Américains, à l'administration Biden encore à l'époque. Et donc là, on a bien franchi un cap avec une intention de désarmer durablement ce programme, puisque l'opération est encore en cours.
Israël indique avoir la maîtrise du ciel dans tout l'ouest de l'Iran. La défense solaire iranienne, composée de systèmes russes S-300, a possiblement été réduite au silence. L'armée de l'air israélienne peut donc frapper où elle veut, quand elle veut, indique Eli Tenenbaum.
La défense solaire iranienne a été rudement mise à l'épreuve au cours des 2 précédentes opérations qui avaient donné lieu à des tirs de missiles balistiques ou aéro-balistiques et à un emploi de drones contre ces fameux S-300 produits par la Russie qui visaient à défendre le territoire et un certain nombre de sites stratégiques. On sait aussi que Tsahal dispose d'avions F-35 avec une signature électromagnétique réduite face aux radars d'engagement qui leur permettent donc de rentrer dans les enveloppes de tir de ces systèmes de défense solaire sans être vus. En tout cas, très clairement, ça a permis aux Israéliens de tester le dispositif par le passé, de mieux comprendre les failles et cette fois-ci d'y aller en prenant davantage de risques et en mettant en jeu une très grande quantité d'aéronefs.
Vendredi et samedi, l'Iran a riposté en tirant des dizaines de missiles balistiques. Téhéran joue gros car de l'efficacité de cette riposte dépend sa crédibilité militaire et stratégique.
Ligne de défense, merci Franck Alexandre. RFI, il est 6h20 à Paris, 4h20 en temps universel.
C'est dans ta nature.
Et il y a désormais en Méditerranée des cartes de baignade qui indiquent non plus seulement la température de l'eau, mais la présence de méduses, ces animaux marins en forme de champignons aux couleurs incroyables, mais aux piqûres redoutables. Vous le savez, c'est dans ta nature, Florent Guignard.
Une méduse, en anglais, ça se dit jellyfish. Ce n'est pas un poisson, mais c'est bien gélatineux, composé à 98% d'eau. Mais la chanson de Gorillaz se trompe. Une méduse n'est pas ultra rapide, non, elle appartient à la famille du zooplancton, ces organismes portés par le courant marin. Et c'est pour cette raison que les méduses possèdent un venin redoutable, explication de Delphine Thibault, enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille.
Quand on est un animal qui se déplace très peu, il faut développer un système qui permet de tuer ou au moins de paralyser extrêmement rapidement ses proies. Le déclenchement des cellules urticantes est très souvent le résultat du toucher, c'est un phénomène mécanique.
Et non, humain, quand une méduse vous pique, elle ne vous en veut pas particulièrement.
Les humains, c'est pas de la défense, c'est juste des rencontres malencontreuses, hein. On a certainement plus de mortalité par méduse par an que par requin.
En Australie, la méduse la plus dangereuse au monde peut tuer un homme en 2 minutes. Pas mal pour un animal à l'organisme en apparence très simple, mais aux formes et couleurs fascinantes. Apparue sur Terre, enfin en mer, il y a 650 millions d'années.
Pas de cerveau, pas de cœur, mais éventuellement des yeux aussi développés que les yeux humains. C'est parmi les premiers organismes, ce qu'on appelle pluricellulaires, et qui ont pu peupler... Quasiment tous les océans.
Les humains la redoutent, mais si les méduses prolifèrent, c'est à cause des humains. Elles n'ont rien à craindre du réchauffement climatique qui favorise leur reproduction, ni de l'acidification des océans. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Et la surpêche est leur allié qui élimine la concurrence, les petits poissons comme l'anchois et la sardine, Delphine Thibault.
Ils mangent en grande partie la même chose que nos méduses. Cette quantité de nourriture devient disponible pour les méduses qui vont savoir en profiter.
Et c'est pour se nourrir que les méduses remontent une fois par jour à la surface, avant de redescendre à des centaines de mètres au fond de l'eau. Il s'agit des plus grandes migrations au monde. Quotidiennes, on reste médusé. Allez, la question.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Quel est l'arbre le plus grand au monde?
C'est un séquoia découvert en Californie en 2006, ratiboisé ensuite de quelques centimètres quand le bourgeon à la cime a été abîmé, peut-être par un oiseau. Mais Hyperion, c'est son nom, a repris sa course vers le ciel. On vient de le remesurer, il s'élève à 116 mètres et 43 centimètres. Sa localisation avait été gardée secrète avant d'être dévoilée sur un blog. La forêt qui l'entoure a alors été piétinée et polluée. Depuis, la zone est interdite et les touristes invasifs risquent même la prison, une sanction à la hauteur.
Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux...
Florent Guignard, c'est dans ta nature sur RFI. Et puis la musique que vous entendez derrière, eh bien c'est Pomme avec le titre Les Séquoias.
Vivre ailleurs.
Pour réussir son expatriation, il faut savoir s'adapter à un nouvel environnement et aussi pouvoir intégrer une culture différente, voire très différente de la nôtre. Mais il existe d'autres difficultés moins perceptibles, notamment liées au domaine d'activité à l'étranger. Le dossier de Corinne Manjou.
Les expatriées françaises n'hésitent pas à s'investir à l'étranger dans des secteurs d'activité traditionnellement réservés aux hommes. C'est le cas de Julia Tatin qui travaille dans l'agriculture et l'élevage au Maroc, deux domaines essentiellement masculins ici. Et elle a choisi de s'occuper d'un aspect très utile mais pas très voyant de l'agriculture. Julia Tatin.
Je fais partie d'un secteur de l'agriculture qu'on appelle le low-tech, beaucoup moins visible que la mise en place de drones, d'intelligence artificielle, de capteurs. On est au quotidien sur le terrain, à changer les bonnes pratiques, à trouver des nouveaux produits qui sont plus durables, plus innovants. Par exemple, je vais beaucoup travailler sur les pollinisateurs, on va faire des formations. Donc en fait, c'est une partie de l'agriculture qui est moins visible.
En tant que femme et étrangère, pourquoi, à votre avis, avez-vous réussi dans un milieu masculin, un pays musulman, Julia Tatin ?
Pour mon parcours professionnel dans l'agriculture, pour mes engagements et ma vocation au niveau des éleveurs et des agriculteurs, qu'ils soient marocains mais aussi africains, pour leur apporter des produits innovants et durables à disposition afin de leur permettre de mieux valoriser leur production et de pouvoir atteindre des filières plus qualitatives. Et aussi parce que donc je suis une femme et j'ai pu m'imposer en tant qu'entrepreneur étrangère et voilà, avoir pu mettre en place des sociétés dans ce domaine.
Et dans un pays musulman ?
Oui, tout à fait. Mais au final, ça fait bientôt 20 ans que je vis au Maroc. Petit à petit, j'ai pu faire mon réseau. J'ai été acceptée par mes pairs. Voilà. En tout cas, j'ai la chance de pouvoir tous les jours travailler en fonction de mes convictions.
Venue de sa Guadeloupe natale, Mélina Semou est expatriée au Québec depuis 10 ans et son domaine de prédilection, c'est l'artisanat d'art valorisé par l'intelligence artificielle. Elle travaille entre le Canada et l'Afrique puisque son atelier est basé à Cotonou au Bénin. Pourquoi ce choix, Mélina Semour ?
Le Bénin, c'est une terre de tradition, riche en savoir-faire artisanal. Et travailler avec des artisans locaux, c'est une manière pour nous de préserver et de valoriser ce patrimoine-là. C'est une façon de faire le lien aussi avec le continent. Mais ce lien entre le Nord et le Sud est une force, en tout cas pour moi, et ça reflète mon ambition de bâtir des ponts entre les traditions et l'innovation.
L'ambition de Mélina Semour, c'est de créer des emplois dans tous les domaines de l'artisanat d'art, et pas seulement avec la sculpture.
Nous sommes en train de créer des emplois, nous sommes en train de créer de la valeur ajoutée, les petits métiers artisanaux comme la sculpture sur bois, la sculpture, la poterie, etc., etc. Et même, entre guillemets, la petite couture et les petits artisans tendent à disparaître, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Eh bien, nous sommes là pour dire, voici comment on peut utiliser l'IA pour pouvoir faire de la valeur ajoutée tout en valorisant notre identité, notre richesse culturelle.
Alors, vous êtes une femme dans un domaine encore dominé par les hommes. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et les leçons que vous en tirez ?
Effectivement, être une femme dans ce milieu, c'est pas toujours simple, il y en a peu. Il faut vraiment être motivé, il faut faire ses preuves, briser des stéréotypes et parfois s'imposer davantage. Mais ce sont des défis qui m'ont rendu plus résiliente et qui m'ont appris l'importance de bâtir en fait une communauté forte autour de moi. Et aujourd'hui, je veux transmettre cela à d'autres femmes. Quand on est fier de qui on représente, eh bien, on est d'accord avec les gens et puis les gens nous comprennent mieux. Donc, c'est une richesse.
Pour mener à bien ses projets, Mélina Semour a créé Semour Création au Québec, en plus de son atelier au Bénin. Quant à Julia Tatin, elle dirige deux entreprises agricoles qu'elle a fondées à Agadir, Cogit Consulting et AgriTentech, qui accompagnent les communautés agricoles au Maroc et dans d'autres pays en Afrique.
Vivre ailleurs, à retrouver également sur RFI.fr. Chaque dimanche matin, nous vous proposons d'écouter un extrait de l'émission L'Atelier des médias. Cette semaine, Steven Jambo revient avec ses invités sur la charte de Marseille, sur l'information et les migrations. Le texte rédigé par des journalistes et des chercheurs a été présenté fin avril durant les Assises du journalisme de la Méditerranée. Il liste 11 principes et a pour ambition de transformer en profondeur la manière dont les médias abordent les questions migratoires. Éric Naon est journaliste et formateur. C'est l'un des co-auteurs de cette charte. Il explique qu'elle a été pensé comme un outil pour les journalistes et les professionnels des médias.
Le sujet des migrations, des personnes exilées, est un sujet extrêmement complexe, émotionnel, polarisant, et personne, moi le premier, n'est dépourvu de biais. Quand on parle de migration, on voit des gens, plutôt des personnes dites de couleur, partant dans le désert, partant en bateau. Or, les migrations, ce n'est pas que ça. C'est aussi ça. Mais ce n'est pas que ça. Et on pense toujours que ces personnes vont venir uniquement en Europe ou uniquement en France, alors que les parcours de migration sont beaucoup plus divers, beaucoup plus différents. L'idée était aussi d'être un outil pour que les rédactions prennent conscience que ce sujet est global. Il est transversal, ne concerne pas uniquement la rubrique faits divers ou ne concerne pas uniquement la rubrique politique quand un homme ou une femme politique décide de légiférer ou de dénoncer des décrets. Donc c'est vraiment un outil pour permettre aux journalistes de se dire « qu'est-ce que je suis en train de faire ?»
Éric Nahon, membre du collectif de journalistes et de chercheurs qui ont rédigé la charte de Marseille sur l'information et les migrations, à retrouver dans l'atelier des médias à 11h10 temps universel sur RFI et dès maintenant dans une version longue sur RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute. Dans 30 secondes, retour de l'actualité africaine sur RFI.
Géopolitique, Clotilde Dumay.
L'élection a été serrée jusqu'au bout en Pologne. Finalement, le nationaliste Karol Nawrocki a été élu président début juin avec un peu plus de 50% des voix. Un nouveau président proche de Donald Trump et qui pourrait freiner les réformes et les ambitions européennes portées par le gouvernement polonais.
Géopolitique, Clotilde Dumay.
Tout à l'heure, à partir de 17h10 TU.
RFI.